ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du mag qui commence aujourd'hui une émission qui va parler de si on est grosse et si on est malheureuse. C'est pas pour nos kilos, mais bien à cause de la grossophobie. Mais pas que, avec nous dans les studios, Juliette qui est ici et maintenant pour échanger autour de LDG.
Bon. Bonjour.
Salut, acronyme mystérieux, LDG.
Ouais, LDG pour Lutte des Grasses, qui est un collectif de lutte contre la grossophobie toulousain. Enfin, le collectif est toulousain, la grossophobie malheureusement n'est pas que toulousaine. Ce serait trop facile.
Bon, alors déjà un petit bâton là, t'as dit collectif, donc c'est bien parti. C'est là pour l'instant.
Ouais, vais probablement utiliser à tort le terme association. D'avance, désolé à tous mes adelphes et camarades de lutte. Je vais essayer de faire des gros efforts.
Tu sais, il faudra une espèce de pain buzzer, un truc. C'est une alerte, alerte à chaque fois que le mot asso va être cité.
C'est, bon, ça. C'est bien ouais, un collectif. Essayer de dire collectif. Systématiquement.
Donc la lutte des grasses est née d'un ras-le-bol d'être sous-représentée dans les réflexions et les luttes contre les discriminations et parce que les espaces dits safe ne l'ont jamais été pour nous. Une réflexion plutôt directe.
C'est des gros mots, oui, tout de suite, dès le départ.
Alors ce qu'on peut constater, c'est que le terme grossophobie est entré dans le dictionnaire Le Robert en 2019. Et ça désigne, donc c'est hyper récent en fait.
Très très récent, ouais.
Une attitude de discrimination envers les personnes grosses, en surpoids et obèses. Alors est-ce que tu penses que c'est utile et important de préciser ce qu'est une personne grosse, en surpoids ou obèse? C'est quoi la différence?
Alors la différence, elle est... Alors en fait, elle va dépendre de à qui tu parles. Moi, j'ai tendance à considérer que le mot surpoids, c'est un mot qui est très dans le jugement, parce que ça veut dire qu'il y a un bon poids et il y a un surpoids, un poids en trop, ce qui peut se discuter, je pense qu'on en parlera, mais voilà, ça veut dire que dès le départ, dans la manière dont tu nommes les gens, tu mets un jugement de valeur et une norme, ce contre quoi on lutte. Et le mot obèse, c'est un mot qui fait directement référence à du médical, qui est très médicalisant. Et en plus de ça, qui est apposé avec souvent... Enfin, les outils de diagnostic, avec des énormes guillemets autour du diagnostic, de l'obésité, souvent ces trucs genre ton indice de masse corporelle, ouais. Ton IMC, ouais. Qui, on peut en parler aussi, est une énorme connerie. voilà, et si tu veux, c'est un peu comme... Enfin, le problème d'utiliser le mot obèse pour parler de personnes grosses, c'est un peu comme quand on dit de quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'il doit être dépressif. En fait, t'en sais rien, t'es pas médecin, tu connais pas la personne, tu vois, voilà. Et
du coup, jugement, en fait.
C'est, moral, ouais, puis c'est un jugement, et puis c'est aussi un truc du... Ça ramène tout de suite au médical. En gros, si t'es pas dans la bonne norme, ben t'es tout de suite malade, c'est très... Enfin voilà, c'est pathologisant, quoi. Et du coup, le mot qu'on entend utiliser, c'est « gros », parce que ce n'est pas un gros mot. Voilà, c'est... Tu vois, moi, je suis grosse, au même titre que je suis blanche, que je suis une femme, que j'ai les cheveux longs, enfin, que je m'appelle Juliette. Voilà, c'est juste une caractéristique. Gros, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est ça, c'est vraiment... C'est... Bah, on en parlera plus tard, mais tu vois, un des bouquins que je préfère au monde et que j'ai pris tant de plaisir à lire, c'est un livre qui est écrit par une comédienne qui s'appelle Sophie Hagen. Et son livre, c'est Happy Fat. Donc littéralement, les gros, genre gros joyeux. Et oui, en fait, c'est juste être gros, c'est neutre. Enfin, ça devrait être neutre.
Ouais, LDG, c'est pas la lutte des graves, quoi.
Ouais, c'est ça. Grasse, c'est bien. Tu vois, il y a un petit double connotation. Si on te le dit à l'oral, tu sais pas. Est-ce que c'est le fait d'être gracieux? Est-ce que c'est le fait d'être gras? Tu ne sais pas.
Voilà. Tout à fait, gracieux.
Parce que l'un n'empêche pas l'autre.
Et donc, tu viens de parler de la fameuse indice de masse corporelle. qui, comme tout indice, est plutôt subjectif, questionnable, et ça conditionne la norme.
Ouais, alors il y a deux choses différentes. Il y a le fait que l'IMC, c'est un outil qui est au mieux discutable, en vrai, bon, pour moi, à jeter complètement, mais bon, voilà. Et il y a le fait que la norme, elle sert pas à grand-chose. L'IMC, c'est un outil qui a été... en gros, c'est l'idée, c'est genre un calcul où on prend ta taille, ton poids, on multiplie, on divise, machin. Je sais plus comment ça marche, parce que vraiment, c'est très peu intéressant. Mais je crois que c'est genre... Enfin bref. Et à partir de ça, ça te donne un chiffre. Enfin, ça donne un nombre qui est entre 15 et 40. Et on a dit, bah, si t'es entre 15 et 20, t'es trop bas. Si t'es entre 20 et 25, t'es bien. Si t'es entre 25 et 30, oulala, attention. Et si t'es au-dessus de 30, ouh, c'est très très grave. Bon, c'est cool, mais en fait, ça veut rien dire. Tu vois, j'étais au Stade Toulousain pour voir un match il y a 3 jours. Je peux t'assurer qu'on est face à des mecs qui n'ont pas un IMC dans la norme. Et pourtant, je pense que c'est des gens qui sont en assez bonne santé, si on nommait les commotions cérébrales. Mais tu vois, à part ça, en fait, ça veut rien dire. Un IMC, c'est un... nombre. Un nombre, ça n'est pas une personne. Tu peux avoir des gros os, tu peux être hyper musclé, le muscle, ça pèse plus lourd que le gras. Tu peux avoir une jambe en moins. Tu vois, j'étais tombée sur un Instagram d'un mec qui est unijambiste. Le gars s'est fait amputer d'une jambe et il disait qu'à chaque fois, il était appelé par des hôpitaux quand il donnait son poids, sa taille. Les gens étaient en mode, mais vous êtes en sous-nutrition sévère, attention et tout. Et j'ai juste une jambe en moins. Voilà, donc en fait, oui, forcément, si on se base que sur les chiffres, et tu vois, et ça, c'est absolument pas représentatif. Et en plus de ça, la notion de norme, bah, c'est très pratique pour vendre des trucs. Et nous, on est quand même assez anticapitaliste. Mais en vrai, on a très peu... Enfin, si tu veux, l'obésité, c'est très pratique comme spectre à agiter pour faire peur aux gens, mais on a actuellement, aujourd'hui, aucune étude qui montre vraiment, concrètement, que c'est mauvais pour la santé. Genre, on n'a rien qui dit l'obésité cause ça. On a des trucs où on dit, ah, c'est rigolo, on se rend compte que les personnes obèses ont ce genre de maladie. Mais on n'a jamais fait d'études qui prouvent. Donc, en fait, à un moment, l'obésité, c'est pratique, mais ça n'est, c'est un mot comme un autre. Et si tu veux, tu te prends des vagues de grossophobie, mais on aura l'occasion d'en reparler, médicale, etc., dès que tu devient vaguement gros, parce qu'après, la grosseur, c'est aussi une échelle. T'es pas gros pareil quand t'es... T'es pas gros pareil selon ton poids, selon ton physique, selon ta morphologie, et même à poids égal, à taille égale, selon comment ton corps gère le gras, tu vas pas être vu pareil. Si ton gras, il est dû à une maladie, c'est pas pareil que si t'as pas de pathologie spécifique. Et tout ça, ça rentre dans la grossophobie médicale, et je pense que on aura l'occasion d'en revenir. Mais si tu veux, voilà. Donc tout ça, c'est la norme. En gros, elle sert à rien à part à contraindre et à vendre des trucs. Et nous, on est pour aucun des deux, globalement. Et l'IMC est un très mauvais outil, parce qu'en fait, c'est un outil hyper biaisé et puis hyper réducteur.
Ouais, vraiment, tu parles d'échelle de valeur. Et il y a cette idée que l'IMC rentre très tôt aussi. Tu fais connaissance avec l'IMC rapidement, en fait.
Dans la vie,
ouais. L'IMC pour des courbes pour les garçons, parce qu'il y a aussi ça qui est...
Évidemment.
Il y a les garçons, les filles et les personnes qui font du rugby. Là,
c'est encore une échelle à part.
Tu voudrais ramener un nouvel IMC. Mais en tout cas, si tu es une fille et tu bascules courbe d'IMC des garçons, tu vois, ça va pas.
Ça va pas. Mais déjà, il y a le... Bah, après, j'ose espérer que ça a déjà été fait, mais en vrai, on pourrait parler des milliards d'années des distinctions femmes-hommes, garçons-filles, qui sont ahurissantes et inutiles, parce qu'en vrai, il y a très peu de différence entre un garçon et une fille, même pré-puberté, tu vois, c'est quand même assez semblable, les enfants. Mais oui, il y a ça, il y a le côté de... Et puis tu vois, par exemple, il y a des stats qui sont sorties, bon, c'est assez connu, mais à partir du premier régime, genre la première connaissance des régimes, chez les petites filles, c'est 5 ans. Enfin, tu vois, et... Enfin, c'est des exemples... Ça, c'est la stat qui est officielle, entre guillemets, qui a été étudiée. Mais moi, j'ai des souvenirs, ouais, de ma petite sœur qui s'est pris des réflexions sur son poids à 5 ans, qui revenait en disant, moi, je veux pas manger de chips, parce que manger trop de chips, on m'a dit que ça faisait grossir.
Mais c'est aussi... 5 ans. Mais l'IMC est déjà là, puisqu'il faut déjà rentrer dans ce moule, en fait.
Ouais.
Dans la courbe qui va conditionner, en fait, déjà aussi le regard de ta famille.
Oui, et puis, tu vois, les bébés potelés, c'est très mignon. Les bébés potelés, c'est mignon. mignon, c'est choupi, oh, c'est rigolo. Ils sont... Et très vite, il faut perdre les bourrelets des enfants. Tu vois, un enfant qui garde des grosses joues, ça va encore. Mais dès qu'il y a du gras ailleurs, où ça va plus. Tu vois, quand tu rentres à l'école, le gras, c'est pas bien vu. On va surveiller ce que tu manges. Il y a ce truc. Et alors, c'est important de bien manger, de manger des fruits, des légumes, des protéines. On est d'accord. Je dis pas
c'est le collectif qui a insisté pour que tu le dises.
C'est une recommandation. Même pas que. Tu sais, l'avantage et l'inconvénient d'avoir vu plein de nutritionnistes et plein de diététiciens, c'est que je sais hyper bien manger. Il n'empêche que je suis toujours grosse. Mais dès tout petit, c'est important d'avoir une éducation à l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est important. Parce que le corps, c'est quand même un peu une machine et qui a besoin de bien manger pour fonctionner, on est d'accord. Par contre, à un moment, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, ça peut venir très tôt. Quand il y a une hyperfixation sur le sucre, sur le gras, sur quand on regarde ce que tu manges, à quel moment tu manges, etc., on peut très vite développer un rapport de confrontation, de mal-être vis-à-vis de la nourriture. Et ça, c'est hyper problématique parce que ça veut dire que des tout petits... on incorpore cette idée que la bouffe, c'est un problème. Que le poids, que ton physique, c'est une question. Mmh. Et en fait, il y a un courant. Bon, pareil, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'y revenir. En anglais, ça s'appelle la body neutrality. En gros, c'est genre la neutralité corporelle. Je vais utiliser probablement beaucoup d'anglicisme. Ouais. Parce que comme on l'a dit, en France, ça entre dans le dictionnaire en 2019. Mmh. Donc il y a beaucoup d'expressions qui sont pas encore très traduites en français, mais donc en gros la neutralité corporelle, c'est un concept qui est relativement récent, venez, on dit qu'on s'en fout de notre corps, en mode on est content, on peut fonctionner grâce à lui, et c'est chouette, mais c'est juste, littéralement c'est une enveloppe de chair qui nous permet de faire des trucs. Et venez, on arrête de mettre une valeur ou une importance sur est-ce qu'il rentre dans des jeans en 36 ou en 46 ou en 56, est-ce que là il a les cheveux longs, les cheveux courts, le poids ça va pas, et on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Et voilà. Mais du coup, oui, non, dès tout petit, t'es confronté à ces questions-là.
C'est tout à fait ce que tu viens de dire, que la fabrication des corps minces et normés commence dès l'enfance. On écoute un premier son qui parle un petit peu de cette réalité.
Il faut se rappeler quand même que ce sont les mères qui s'occupent principalement des pratiques alimentaires des enfants et des pratiques de santé des enfants. Et du coup, les mères, en fait, retraduisent parfois leur propre insatisfaction corporelle. Et du coup, elles vont contrôler aussi, effectivement, l'alimentation de leurs filles ou essayer de les mettre au régime lorsqu'elles vont prendre un peu de poids, par exemple. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être assez dramatique, puisque du coup, ça va justement conduire à un contrôle de l'alimentation de l'enfant qui, à un moment donné, soit va complètement lâcher prise et du coup, prendre beaucoup de poids un peu en contrepoint de ce contrôle permanent, soit au contraire, essayer de continuer ce contrôle et entrer dans des régimes permanents avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Même bébé, hein, y a des mères qui peuvent être très contrôlantes sur ce que le bébé va boire, par exemple, parce qu'elles veulent pas qu'il grossisse trop. Mais ça, il faut vraiment comprendre que c'est un comportement qui traduit les normes sociales. Il y a une norme de minceur qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus forte, par exemple, qu'en Allemagne et en Angleterre, où j'ai travaillé, qu'on peut tout simplement constater en ouvrant un magazine féminin, où on va voir que les mannequins proposés ou les modèles de femmes proposées sont des personnes qui sont extrêmement minces. C'est d'ailleurs assez peu courant de voir à la télé des femmes qui sont juste de corpulence normale. Donc il y a quand même une question qui se pose en termes de genre, là, en termes de normes esthétiques et sociales, qui différencie vraiment les hommes et les femmes sur cette question, et qui a des conséquences importantes, puisque justement, notamment, ce sont les femmes qui font beaucoup plus de régime que les hommes, et qui sont beaucoup plus insatisfaites sur leur rapport au corps et leur rapport à la corpulence, et qui veulent beaucoup plus que les hommes maigrir. Et voilà, ça ne va pas correspondre en fait à l'idéal de la féminité qui existe dans notre société, où les femmes doivent se contrôler, doivent aussi contrôler leur corporalité. Elle doit aussi être moins bruyante, moins expansive, prendre moins de place. Donc c'est vrai que dans l'espace public, une femme qui est très grosse, elle prend beaucoup de place, elle est très visible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Un homme a beaucoup plus de place dans l'espace public de manière générale. Il a plus le droit, on l'écoute plus, il a plus le droit d'interrompre quelqu'un qui parle, plus le droit de s'exprimer, d'être bruyant, d'avoir des comportements visibles. Et du coup, un homme qui est en surpoids, il est visible, certes, mais finalement... C'est moins choquant chez lui.
Donc oui, donc j'ai laissé jusqu'au bout le son parce que ça traduit bien l'idée que l'obsession vient de l'enfance, avec cette particularité que la grossophobie vient de l'intérieur de la famille, de sa maison, de ses alliés potentiels et supposés. Cette violence qui est liée à l'intime, à la fin du son, on parle de la place, et donc intérieur, extérieur, et de la place que ça représente pour soi, en soi, et progressivement, du rapport de toi dans la place et l'espace, quoi.
Bah, ce que je trouve intéressant, et en même temps ce qui fait que la grossophobie c'est une question compliquée, et voilà, c'est que c'est par nature très intersectionnel. Tu vois, toutes les grandes luttes sont au croisement de plein de problématiques. Tu vois, le féminisme, c'est à l'intersection de plein de choses, ça s'intègre dans le politique, le social, la vie quotidienne, etc. Le poids, c'est pareil. Et il se trouve que le poids, tu le retrouves à littéralement toutes tes interactions. Que ce soit... Alors, tu le retrouves à toutes tes intersections, que tu sois un homme, une femme, une personne non-binaire, parce que de toute façon, on est dans une société très normée. Et effectivement, en France, c'est visible quand on veut le voir. Parce que tant qu'on t'a pas dit, t'as remarqué que toutes les personnes à la télé, voilà, sont minces, tu le vois pas forcément. À partir du moment où tu le vois, c'est comme quand on dit, je sais pas, t'as vu, il y a plein de voitures vertes, et d'un coup tu vois toutes les voitures vertes, t'es vachement plus attentif. C'est pareil avec la grossophobie. Ce qui est d'ailleurs des fois très chiant, hein, le burn-out militant, ça peut aussi venir de ça, c'est de se dire qu'à un moment tu vois tous les soucis en permanence et tu n'arrives même plus à débrancher, à profiter d'un événement, d'un truc, ouais, médiatique.
Une victoire.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ou même juste te dire, je vais me poser devant une série. Putain, mais en fait, t'as encore le personnage du gros rigolo ou de la grosse moche ou machin. Enfin, ou de la copine moche qui est grosse et qui n'arrive pas à ken. Bon, ça, t'as ce truc-là, qui n'était pas du tout mon point à la base. Mais qui est que la grossophobie, c'est partout. Et du coup, effectivement, tu la retrouves dès l'enfance, dès la naissance, mais même avant la naissance, tu vois. Genre, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de voir ou de discuter avec des femmes enceintes, la question du poids pendant la grossesse, mais c'est un sketch, où tout est monitoré parce que prendre trop de poids, oulala, c'est dangereux, mais c'est dangereux. Alors, on t'explique jamais si c'est dangereux pour le fœtus, puisqu'il y a une... si c'est dangereux pour les parents, ok, pourquoi pas, ou si c'est dangereux parce que tu vas pas pouvoir reperdre le poids derrière. Quand tu vois, t'as des dizaines d'heures, et je minimise beaucoup trop le truc, mais des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de contenu sur Internet, sur les magazines de régime post-accouchement, de 2 semaines après l'accouchement, je suis retournée à la salle et voilà, j'ai tout perdu. Et t'es en mode, mais attendez, on se calme, c'est que du poids, c'est pas grave. Sur l'échelle des trucs qui peuvent se passer dans la vie, prendre du poids, c'est un détail. Et effectivement, en plus, prendre du poids quand t'es une femme, quand t'es une femme cis ou quand t'es perçue comme une femme, parce que c'est deux choses différentes, il y a effectivement ce truc de, dans la norme, une femme avec un F majuscule, tu vois, c'est censé être discret, délicat, raciné. Quand t'es gros, tu prends de la place.
Prendre la place, ouais.
Tu vois, c'est con, hein, mais tu prends de la place
physiquement. Le rapport à la place, ouais.
Voilà, et donc il y a aussi ce truc de quand t'es gros, tu peux avoir tendance à un peu te tasser sur toi-même, à t'excuser en permanence d'être là, tu vois, et puis il y a des trucs très concrets aussi de type tu t'assois sur des chaises en priant très très fort pour qu'elle casse pas sous ton poids, parce que c'est la pire des choses, qui est encore autre chose, mais tu vois, t'as ce rapport à la place physique, et puis il y a aussi toute la question de la dysmorphie, où, tu vois, quand la dysmorphie, c'est le fait de ne pas se voir tel qu'on est, c'est-à-dire que quand tu te vois... ce que tu vois dans le miroir, tu l'empires avec des gros guillemets par rapport à ce que t'as en toi. Et il y a un peu ce truc-là, notamment, j'avais lu des témoignages de personnes grosses qui avaient perdu beaucoup de poids, ce qui est encore quelque chose qui est à la fois très personnel et qui peut être très dangereux. Et voilà, la perte de poids, c'est un sujet très à part. Mais bref, des gens qui avaient perdu énormément de poids et qui disaient, mais en fait, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours ce poids-là, parce qu'en fait... on t'a éduqué dans ce truc de faut que tu sois conscient de ton corps en permanence pour pas te dépasser. Et donc, tu te fais dans ce truc de faut pas que je dépasse, faut que je me contrôle, faut que je serre les bras, que je rentre les jambes, que machin. Et même les personnes qui ont perdu du poids restent dans ce truc de faut que je m'excuse un peu d'être là. Et donc, le poids, de toute façon, la société ne te laisse pas l'oublier.
Et souvent, quand tu vois des photos de toi enfant, en fait, quand... t'as traversé ton enfance avec l'image gros ou grosse. Souvent, quand tu renvoies des photos de toi, tu te dis, mais c'était pas...
Ah, mais ça dépend des gens, encore une fois. Mais la plupart du temps, souvent... Je pense que c'est pareil avec beaucoup de complexes et de traits physiques, etc. Mais il y a ce truc de putain, mais à l'époque, je me voyais énorme et en fait, je l'étais pas tant. Et depuis, j'ai pris du poids et je suis plus grosse. Et c'est la vie. Il y a des gens qui. Enfin, tu vois, et je. Il y a une nana. Putain, j'ai plus son nom. Bref, il y a quelqu'un que j'a... sur lequel j'étais tombée pareil sur Instagram et qui disait que plus jeune, elle avait retouché toutes ses photos. Mais vraiment, toutes ses photos. Et elle disait, mais en fait, maintenant, je fais genre 40 kilos de plus. J'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Et je regrette tellement de plus avoir ces traces-là de moi, de l'époque. Et aussi, elle... et après, ça, c'est un truc qui est partagé par, je pense, beaucoup de personnes adultes grosses. Moi, j'ai tellement de compassion et de peine pour l'ado que j'ai été et qui se détestait physiquement. Et des fois, j'aimerais bien pouvoir dire, t'inquiète, vraiment, fais 40 kilos de plus. On est bien. On n'a jamais été mieux, même, j'ai envie de te dire.
Mais je pense qu'il y a ce moment de bascule qui passe... par l'empouvoirment, qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu vois, tu au-delà de l'acceptation, c'est-à-dire quelque chose te fait te dire mais c'est ok.
Tout le monde n'aura pas le même, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas, hein, mais pour moi, bah, l'activisme, la lutte et le fait qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, le fait, la représentation
tout
aussi,
ça, on va en
truc.
Parler évidemment.
J'espère. mais voilà, c'est des trucs hyper importants, et puis après, il y a aussi un moment où t'acceptes. Enfin, en tout cas, il y a un moment où t'acceptes, pas dans le sens de t'acceptes d'être gros, mais il y a un moment où t'acceptes que de toute façon, c'est la vie.
C'est ta vie.
Que c'est pas grave. Mmh. Et tu vois, et encore une fois, il y a un peu ce truc de... en tout cas, moi, ça a été une réflexion un jour de me dire, mais il va falloir arrêter de s'excuser d'être là. Il va falloir arrêter de faire des choses, enfin, de s'empêcher de faire des choses en disant, oui, mais ça, je le ferai quand j'aurai... Et ça peut être le quand j'aurai que tu veux, hein, ça peut être quand j'aurai fait des études, quand j'aurai passé mon bac, quand j'aurai perdu 30 kilos. À un moment, tu dis, vas-y, la vie... Elle est là, il y a des opportunités qui sont là, qui sont chouettes, et go, on y va, et c'est pas grave, et on est gros, et ben, et puis il y a aussi un truc, c'est que moi j'avais l'impression qu'il fallait que je m'excuse, et de me dire, tu sais, si je rentre le ventre, peut-être que les gens ils se rendront pas compte. Non, non, t'es gros, ça se voit. Il y a des trucs que tu peux cacher, tu vois, il y a des particularités physiques, il y a des trucs que tu peux dissimuler, que tu peux essayer de masquer. La grosseur, ça se voit. Donc en fait, si les gens... Là, moi j'avais beaucoup ça par rapport à l'attraction. Le fait que les gens, que quelqu'un puisse me dire qu'il me trouvait attirante, j'étais en mode non, non, c'est une blague, tu vois, c'est pas drôle, c'est pas gentil de faire ça. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, si la personne, elle me dit qu'elle est attirée par moi, enfin, c'est-à-dire qu'elle m'a vue, elle me voit, elle voit ma grosseur, elle voit mes, voilà, elle voit mes fesses, mes seins, mon ventre, mes bras, ça ne se cache pas, le poids. Ou si ça se cache, c'est avec énormément de douleur et d'efforts et de souffrance. Et la vie est trop courte pour s'emmerder à porter des gaines amincissantes toute son existence. Ah, c'est bon.
D'ailleurs, dans un de vos textes, dans un des zines, j'ai lu « Non, tu ne te sens pas grosse », comme pour dénoncer l'idée du ressenti.
Bah, ça dépend sur quoi et ça dépend quand. Mais effectivement, il y a aussi ce truc de... alors, c'est très compliqué de rendre objectif la grosseur, dans le sens où... il y a pas, bah, comme l'IMC c'est de la merde, CF début de l'émission, on peut pas dire ah bah à partir de tel poids t'es gros, ce serait débile et ça veut rien dire. Encore une fois, je prends un exemple des joueurs de rugby, je ne vais pas aller voir un joueur de rugby en disant excuse-moi, tu sais que selon ton IMC tu es gros, tu vois, enfin à un moment, mais effectivement il y a une expérience de la grosseur et du poids qui est matériel. Tu vois, il y a une échelle qui a été faite. Alors, elle se retrouve à plein d'endroits. Moi, j'ai pris celle de Corps Cool, qui est un très chouette compte Instagram, qui a traduit et repris, une des échelles de poids pour dire, en gros, l'idée, c'est est-ce que tu es légitime ou pourquoi est-ce que tu pourrais être légitime et comment est-ce que tu peux t'identifier en tant que personne grosse ? Et qui reprend du coup, bref, qui reprend l'histoire, dans l'histoire du militantisme, etc. Et en gros, ça identifie 5 paliers. Donc qui est, je retrouve mon image, qui est le fait d'être, enfin qui identifie 5 paliers. Il y a les gens qui sont de taille normale, entre guillemets, les gens qui sont petits gros, donc c'est le tout début de l'échelle de la grosseur, les gens qui sont moyen gros, les gens qui sont gros, et les gens qui sont, alors t'as plusieurs termes, mais souvent on dit soit super fat, donc super gros, ou infini fat, donc infiniment gros. Et en fait, les critères, c'est est-ce que tu trouves ta taille dans des magasins de vêtements classiques ? Est-ce que tu trouves ta taille dans des magasins spécialisés grande taille ? Et est-ce que tu arrives à t'asseoir ? En fonction de ces trois critères, tu peux te placer sur cette échelle. Alors évidemment que c'est imparfait. Le but, c'est pas de dire on a l'outil définitif. C'est pas ça. Mais c'est d'avoir une première définition et de pouvoir se dire, bah, en regardant ces trois critères, ah non, mais en fait, je suis pas gros. Je suis au-dessus de ce qu'on considère être la norme correcte. La norme correcte, c'est de faire un 36 ou un 34. C'est très petit, la norme correcte. Hein. Mais en fait, selon cette échelle, tu peux te placer et voir qu'en fait, ce qu'on appelle des gens gros, déjà c'est très vaste, ça commence, si on se base sur la taille de fringues, ça commence sur du 46, 48, 50. C'est le tout début de l'échelle de la grosseur. Alors encore une fois, en prenant en compte que tous les corps sont pas pareils. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, je sais pas si t'as suivi, il y a Sam Smith qui a gagné des Grammys... Je crois que c'est des Grammys. Bref, un chanteur qui a gagné des Grammys, et tout le monde est en mode, c'est fou, un homme gros qui porte des corsets, des body, qui monte son corps et machin et tout. Et il y a plein de militants contre la grossophobie qui disaient, mais attendez, on va se reposer deux minutes. Sam Smith, il fait pas partie des personnes extrêmement grosses. C'est le tout début de l'échelle de la grosseur. Et on a aussi ce truc de pas forcément réaliser toute l'ampleur. Et il y a des gens... Tu vois, en France, globalement, tu trouves ta taille en magasin jusqu'au 46-48, selon les magasins.
Ouais, on va parler de ça aussi, voilà. Du fait de dissimuler, de ne pas vouloir forcément une clientèle.
Ouais, c'est compliqué aussi pour s'habiller, des stratégies pour ne pas les avoir en magasin. Enfin, complètement, voilà. Mais ouais. En gros, voilà, en France, pour rappel, pour les vêtements femmes, la taille moyenne, c'est la taille moyenne ou la taille médiane. Bref, des femmes, en France, c'est 42-44, ouais, okay. En termes de vêtements. Tu vois, 42-44 taille moyenne. Entre 44 et 48, c'est ta taille max dans la plupart des magasins.
Et après, tu peux plus t'habiller en magasin.
Après, tu peux plus t'habiller en magasin. Pratique.
Super.
Voilà. Quand tu vas dans des magasins grande taille, globalement, de là, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, ça coûte cher. Ouais. Et puis, on ne va pas se mentir, en termes d'habits, je pourrais y amener ma grand-mère, qu'elle serait ravie. Et elle est ravie d'ailleurs. Coucou, mamie, si tu m'écoutes. Mais disons que si t'aimes les crop top, les trucs à paillettes et le psychédélique, tu vas pas trouver ton bonheur. Et même là, ça monte rarement au-delà du 58-60. 60 en termes de taille, c'est pas tant. Tu vois, et tout de suite, après, t'as ce truc de y a plus rien. Comment on fait ? Comment on fait pour ce plus rien qui existe, hein, et des gens qui sont dans le plus rien des vêtements ? Eh ben, il va falloir quand même qu'ils s'habillent, qu'ils trouvent genre un travail, parce que le capitalisme est un cancer, mais qu'on a tellement envie dedans. Enfin, tu vois, et encore une fois, et puis même, sans même parler des vêtements, mais juste, t'es gros, tu veux prendre une voiture ? Ah la ceinture. T'es gros, tu veux aller chez le médecin ? Ah on peut pas prendre votre tension parce que le bracelet n'est pas assez gros. On peut pas prendre de fauteuil roulant. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là...
Ouais, le mobilier urbain qui est pas adapté...
Des chaises de jardin. Des chaises de jardin en plastique ? Vraiment ? Je suis pas croyante, mais crois-moi que je fais une petite prière à toutes les divinités qui existent à chaque fois que je pose mes fesses sur une chaise en plastique. Parce que, en plus du fait d'être gros... De se sentir, et quand moi je considère, pour le coup, je vais être en désaccord avec le texte que tu disais tout à l'heure qui disait tu ne te sens pas gros, tu es gros. Ben en fait, si, il y a quand même un truc de le regard qu'on porte sur toi te fait te sentir gros. Te fait te sentir gros et te fait te sentir souvent honteux. Et ce truc-là, comment te dire qu'il y a plein de situations où, alors moi maintenant moins, parce que j'ai décidé que je m'en fous. Mais c'est parce que j'ai 26 ans, 2, que j'ai lu, que j'ai vu, que j'ai écouté plein de personnes grosses parler. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Enfin, tu vois, dans ma propre famille, j'ai des gens gros qui sont encore dans ce faux excuse d'exister. Mais t'as plein de situations que tu évites en disant « Mais je suis déjà perçue comme la personne grosse. Si je fais cette activité, je vais être perçue comme la personne, oh mon Dieu, horriblement grosse. » S'asseoir sur une chaise en jardin qu'elle casse sous ton poids, te fait passer de « Ah oui, t'es gros » à « Oh mon Dieu !» Tu vois, et ce gap, plus jeune, tu n'as pas forcément envie de le passer. Après, tu apprends qu'on s'en fout, et que vraiment, c'est pas grave, et que c'était vraiment parce que la chaise, elle était pétée, elle était pas de bonne qualité. Parce que, pardon, mais qu'elle casse sous le poids d'un éléphanto, je veux bien, je fais pas le poids d'un éléphanto, et très peu d'humains font le poids d'un éléphanto.
Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée, de préférer ne pas voir les personnes grosses en magasin.
Alors, il y a la question de l'image. T'as la question de... C'était Abercrombie et Fitch, il y a... Je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Mais non, mais il y a, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça, t'avais le patron d'Abercrombie et Fitch qui avait dit que de toute façon, ils iraient pas au-delà, je crois que c'était du 40 ou du 42, parce qu'ils voulaient pas de gros dans les magasins, parce que ça ferait baisser le standing de leur magasin. Pour rappel, c'est eux qui mettaient des mecs en slip sous la neige devant le magasin pour faire des photos, tu vois. Donc on n'est pas sur quelqu'un de très chouette. Mais il y a ce côté-là, il y a le côté de faire venir des personnes grosses. Enfin, que des personnes grosses viennent dans le magasin ferait baisser le standing du magasin. Super pour ton image de toi, je te laisse imaginer. Il y a le côté de faire des vêtements grande taille. À partir du 46, hein, globalement, ça nécessite de penser ton vêtement différemment. Parce qu'en fait, si tu veux, enfin, je fais un mini cours de couture, vraiment très mini. Normalement, quand tu fais un patron...
C'est le tuto couture, c'est maintenant.
C'est ça, c'est le moment couture. Non, mais en gros, normalement, quand tu fais un patron, si tu veux, tu fais ton patron pour une taille, et puis ensuite, tu peux le baisser, le monter de quelques tailles facilement, t'as juste à décaler, et en gros, tu fais la même chose, mais en plus grand. Au bout d'un moment, si tu veux, que ce soit dans le plus petit ou dans le plus grand, ça ne marche plus. C'est la même chose, tu veux, que si tu voulais prendre un vêtement pour enfant et le traduire tel quel en vêtement pour adulte. Ça ne marche pas, parce que ton corps n'est pas fait exactement de la même manière. En fast fashion, le but, c'est de réduire au maximum les coûts. Tu penses bien qu'on va pas s'emmerder à refaire un patron spécifique pour les personnes qui font plus qu'un 46. Donc, soit tu as des vêtements qui sont conçus comme un 40, mais pour des personnes grosses. Généralement, ça marche pas. Ou alors, juste, on fait pas. Voilà, ça, c'est aussi la deuxième possibilité. Donc voilà, il y a ce truc-là. Après, tu as évidemment tous les arguments de type « ça coûterait trop cher en tissu ». Voilà. Par contre, tu vois, le 36, on te le fait pas payer moins cher alors qu'on utilise moins de tissu. Là, faut pas déconner. Il y a le « on va quand même pas stocker des tailles que des gens ne viendront pas acheter ». Parce que les 34, il y a beaucoup de gens qui font... Il y a beaucoup de femmes adultes qui font les 34. Et tu vois, par exemple, t'as des trucs... Avec le temps, tu remarques... Genre, je vais prendre un exemple très concret. H&M, il y a des années de ça, allait jusqu'au 48, globalement. Et jusqu'au, je crois que c'était XL ou double XL. Ils ont sorti une ligne spécifique grande taille. Qu'ils avaient mis en magasin à l'époque. Et qui allait jusqu'au genre 54 ou 56. Et du coup, ils en ont profité pour baisser la taille maximum des autres modèles du magasin qui allaient genre jusqu'au 44 désormais. Ce qui signifie qu'avant, tu avais tout un magasin H&M jusqu'au 48. Maintenant, tu as une ligne de vêtements, genre 10 modèles, mettons, qui certes vont jusqu'au 54, mais le reste du magasin n'est plus du tout accessible pour les autres. Bon. Et puis, ils ont décidé de passer cette ligne-là, grande taille, uniquement sur Internet. Mais ils n'ont pas dit, bah, on va remonter les autres modèles jusqu'au 48. Ce qui fait que maintenant, genre il y a 15 ans en H&M, à H&M, t'avais du 48, maintenant t'as du 44. Et je suis loin d'apprécier H&M, et encore une fois, la fast fashion, c'est plein d'autres soucis, etc., et on est bien d'accord. Mais il n'empêche que moi, je me rappelle à 14 ans de limite chialer, parce que tu vas faire du shopping avec les copines, parce que t'as 14 ans, et que globalement, en termes d'activité, j'avais pas grand-chose qui m'intéressait à l'époque, et de se rendre compte que, ben, en fait, y a rien. C'est... À la fois, maintenant en tant qu'adulte, c'est agaçant, parce que des fois, t'as besoin d'un vêtement. Et tu vois, typiquement, l'agacement principal qui me reste, c'est sur les vêtements de sport. Parce qu'il y a des activités, genre tu veux aller au ski, t'as besoin de vêtements de ski. C'est assez mécanique. Tu vas rarement en pagne. Et ben, va trouver des vêtements de ski quand t'es gros. Et donc, il y a cet agacement-là concret putain, c'est chiant parce que j'avais besoin de ce truc que je ne trouve pas. Et puis aussi, tu vois, on en revient à un truc de se sentir gros. Mais en fait, c'est hyper violent de se prendre dans la gueule le « Ah oui, non, mais on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que... On s'en fout. On va pas faire ça parce que tu ne mérites pas de porter nos vêtements. » Parce que c'est ça que tu te prends comme message. C'est toi, tu n'es pas assez bien pour porter nos vêtements. Ce qui fait que de toute façon, t'avais déjà pas une super image de toi. Tu finis par acheter des immenses t-shirts noirs et puis ça te fait des pagnes et puis ça te fait des robes et puis voilà. De toute façon, quand tu regardes à la télé des émissions de relooking, globalement, on dit que quand t'es grosse, il faut porter du noir, ma chérie, parce que ça affine. T'as bien compris que l'objectif...
T'as essayé d'imiter quelqu'un, là, non ?
Peut-être. Je fais très mal l'accent brésilien. Non, mais tu vois, et de toute façon, on a bien compris que le but, c'est de t'affiner, puisqu'encore une fois, tu n'es pas censé exister. Tu es une anomalie, les magazines te l'ont assez répété, mange de la salade, bois de l'eau, et puis ratatine-toi, quoi.
Pourtant, tu existes et c'est difficile de trouver sa place dans les différents espaces publics, que ce soit la rue, l'école, le travail. Que dit la loi face à la grossophobie qui entre dans le champ de l'article 225-1 du Code pénal et qui constitue donc une discrimination, c'est-à-dire une distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur... grosseur, c'est là pour la grossophobie, et de leur apparence physique. Tu subis effectivement des phrases assassines, des ricanements, des regards dédaigneux par rapport à la rue. La discrimination envers les obèses est lourde de conséquences, puisque...
J'aime bien le jeu de mots.
Ouais. ça va être difficile d'éviter les...
Alors, nous, à LDG, on adore les gros jeux de mots.
D'accord.
C'est notre grande passion dans la vie. On fait des grosses réunions, des gros week-ends.
Je vais avoir une alerte à chaque...
Nous, ça nous fait... Tu as le droit.
Bon. Puisque oui, c'est ce que tu dis, c'est violent, c'est humiliant. On parle de l'enfance, de l'adolescence, des moments de construction difficiles. Toi, au bout d'un moment... Tu as eu ce flash de te dire par le militantisme bah...
Alors, moi, mon premier flash, ça n'a pas été le militantisme. J'aurais adoré. Mais non, mon premier pas, en tout cas, ça a été via la représentation sur les réseaux. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Dieu merci, ça a quand même permis d'ouvrir une porte de visibilité à des gens très différents. Mais tu vois, moi je me rappelle la première, alors c'était le début des réseaux sociaux, j'avais peut-être genre 13 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle de lire un article sur le fait que H&M justement faisait sa première campagne avec un mannequin, avec un mannequin grande taille, dont je serais incapable de me rappeler le nom, mais je vois les photos de cette femme. Je vois ses mensurations. Et à l'époque, j'avais exactement la même taille, le même poids que ce mannequin grande taille. Et je me rappelle me dire « Waouh, c'est possible !» Tu vois, c'est possible d'avoir mon poids et ma taille et d'être reconnue comme belle et d'être égérie d'une marque et d'être valorisée pour son physique. Bon, je me rappelle que 5 minutes après, ma mère est rentrée dans le bureau. Pardon maman, mais coucou maman, je t'aime très fort. Et je sais que tu as fait plein d'efforts sur ça, mais voilà, à l'époque, moins. Ma mère est rentrée dans le bureau 5 minutes après, m'a demandé ce que je faisais. J'étais en mode genre, t'as vu, il y a une mannequin grande taille qui fait mon taille, genre ma taille, mon poids, c'est fou et tout. Et ma mère a vraiment dit genre, oui, enfin bon, à un moment, Juliette, t'es pas mannequin, donc à un moment, on va plutôt genre faire un régime. Et puis et là, vraiment, le truc de
ah, ça casse l'ambiance d'un coup.
Ça casse l'ambiance d'un coup. Et de se prendre un peu ce truc de « Ah oui, mais de toute façon, même si tu t'es pas assez jolie pour être mannequin. » Et puis, en gros, c'est l'arbre qui cache la forêt. En tant que personne grosse, tu n'auras pas accès à ça. En grandissant, il y a effectivement, tu vois, tu parlais de discrimination à l'embauche, etc. Oui, c'est illégal. Comment te dire que si le monde du travail respectait le code du travail et le code pénal, ça se saurait. Moi, je me rappelle d'avoir... je travaillais dans un magasin dont je tairais le nom, parce que voilà, même si c'était des gros cons. Mais je me rappelle d'avoir entendu dans un entretien d'embauche, on était deux meufs grosses. Et je me rappelle l'entretien d'embauche... ils font un entretien d'embauche avec une nana. Elle part et puis j'entends les patrons dire « Bah non, on peut pas l'embaucher, elle est trop grosse. À un moment, on en a déjà deux. Si on en met une troisième, elles passeront plus derrière le comptoir, quoi. » Et là, tu fais « Ok, super. » Et de toute façon, quoi que tu fasses, tu peux être la meilleure... meilleur animateur radio de ta vie, tu peux être la meilleure caissière, la meilleure ingénieure, machin. Il y aura toujours ce truc de... Tu es quand même gros. Et en psychologie, il y a un truc qui s'appelle l'effet de halo, qui dit que si tu n'es... En gros, si tu ne rentres pas dans les critères de beauté, tu seras moins bien payé. Globalement.
Mais d'autant que c'est statistique.
C'est ça.
Les chiffres le prouvent.
C'est ça. Donc, ça veut dire que ton poids a des conséquences directes. J'imagine qu'on en parlera un moment. Mais il y a la question de est-ce que la grosseur, c'est un handicap ou pas, machin. Et il se... Alors, il y a des... c'est un vaste débat dans le milieu de l'activisme voilà, sur est-ce que le poids peut être considéré comme un handicap ou pas. On se place bien comme on veut, il n'empêche que concrètement, quand tu es gros, tu es moins bien payé, tu évolues moins vite, tu vas être jugé plus durement parce qu'on considère que tu dois compenser le fait d'être gros. Mais c'est aussi concrètement, j'avais des potes qui bossaient à McDo qui étaient gros, et ben l'uniforme n'était pas à leur taille. Elle devait, j'ai une copine qui devait acheter ses jeans et se les faire rembourser par McDo parce qu'ils n'avaient pas dans leur ligne d'uniforme sa taille.
Une candidate obèse décroche deux fois moins d'entretien d'embauche, avec toujours les idées reçues sur elle ne se discipline pas. Certains employeurs vont refuser d'embaucher des personnes grosses car elles recherchent un personnel qui elles considèrent en mesure de séduire la clientèle. Mmh.
C'est souvent sur des boulots d'image,
oui, c'est ça,
ce qui sont de toute façon des boulots où tu es très mal considéré, très mal payé et exploité. Hein, donc voilà, mais tu vois par exemple, si tu veux faire de l'accueil, eh ben c'est compliqué d'être gros, ouais, parce que c'est pas joli en gros.
Oui, l'apparence physique est le deuxième critère cité parmi les discriminations perçues par les demandeurs d'emploi interrogés, selon une étude de l'Organisation internationale du travail.
Sauf que c'est très difficile de le quantifier et de le mesurer. Et tu peux, y a des choses où, à part si vraiment devant toi, la personne avec qui tu passes l'entretien dit « Ah, de toute façon, nous, on ne prend pas de personnes grosses », bon là, c'est facile.
On te le dit rarement quand même.
C'est-à-dire qu'on te le dit rarement, généralement, on va te dire autre chose. Mais effectivement, très concrètement, c'est-à-dire que soit tu arrives avec un CV long comme le bras et tu passes dans des normes de genre, parce qu'il y a ça aussi, on ne l'a pas encore évoqué, mais le poids... en fait, pour être... Alors, c'est particulièrement visible, je trouve, en tant que femme. Parce qu'encore une fois, évidemment, le sexisme va venir s'inviter dans la partie. Mais si tu es une femme grosse, globalement, il faut que tu sois... Enfin, on t'encourage à être hyper féminine pour compenser. C'est-à-dire qu'on va t'encourager... Tu as typiquement l'image de la pin-up. Les concours de pin-up sont remplis de femmes grosses. Ah oui, et par contre, j'en profite, mais il faut arrêter avec le mot ronde, faut arrêter avec voluptueux, ça suffit, ça s'appelle des caches-misères, c'est très agaçant. Parenthèse fermée, parce que c'est souvent comme ça qu'on dit les femmes voluptueuses, machin, mais ah, bref. Mais voilà, on t'encourage beaucoup à jouer sur ton hyper-féminité, ouais, en gros, pour dire oui, je suis grosse, mais regardez, j'ai quand même des atouts.
Et ça te ramène encore à ton corps, de toute façon.
De toute façon. Oui, bah, en tant que femme, t'as rarement autre chose qu'un corps, soyons très honnêtes. Au cas où l'ironie n'était pas assez entendable, c'était de l'ironie. non, mais voilà, mais donc si tu veux, t'as ce truc de, en tant que meuf, on va t'encourager, si t'es grosse, à perdre du poids. Et en attendant, ou si t'y arrives pas, à porter du rouge à lèvres rouge, mettre des talons, avoir les cheveux longs, mettre des décolletés, tout ça. Et je dis que c'est différent quand t'es un homme ou quand t'es perçu comme un homme, parce que même si c'est pas plus c'est pas cool non plus hein, d'être un homme gros, mais t'as quand même un peu plus de spectre. T'as un peu plus de stéréotypes dans lesquels tu peux glisser. En tant que femme, t'es soit le garçon manqué, dont on va pouvoir rigoler parce que ah là, elle fait pas d'effort, soit la pin-up hyper pomponnée qui, a quand même gagné un petit peu son droit à exister parce qu'elle fait des efforts. Regarde, elle a passé 3 heures à se coiffer ce matin, tu vois. Et donc, en entretien d'embauche, typiquement, alors de toute façon, le but, c'est de te vendre. Et donc, te vendre, souvent, c'est rentrer dans les cases clichés, stéréotypes. Mais quand t'es grosse, c'est vraiment faire un effort particulier. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et je sais que je suis pas la seule, de faire un effort, de se maquiller bien, de se maquiller tout court si tu te maquilles pas, de mettre des vêtements attrayants, machin, pour en gros prouver, c'est un peu dire « Non mais je sais, je suis grosse, mais promis, je fais des efforts !» Tu vois, sauf qu'on demande pas ça aux autres. Mais c'est pareil, tu vois, on parlait du style vestimentaire, il y a des bulles sur Instagram, moi j'en vois beaucoup passer, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, en vrai il y en a pas tant, mais... Il y a des contenus, des créateurs et des créatrices de contenus qui refont des tenues à la mode sur des corps gros pour dire mais en fait, c'est aussi facile de s'habiller avec style et de sortir de l'esthétique sac à patate ou pin-up quand on est gros. Parce qu'en fait, il y a un peu ce truc de quand t'es mince, tu mets n'importe quel vêtement. Waouh, c'est si élégant. Quand t'es gros, non. Bah oui, mais forcément, sur des... on en revient au des vêtements mal coupés, pas taillés, machin, ça passe pas bien. Et puis de toute façon, quand tu es gros, tu n'es pas censé être dans l'espace public, tu n'es pas censé être apprêté. Et bah, de toute façon, mais comme dans toutes les luttes, c'est-à-dire que t'es soit trop, soit pas assez. Donc c'est soit c'est oh là là, tu passes tellement de temps sur ton effort, voilà, soit oh là là, mais tu pourrais faire plus et au moins essayer de. Mais il y a vraiment ce truc de les entretiens d'embauche. Moi, je sais que je suis à chaque fois sur mon 32 en me disant « Allez, peut-être que comme ça, vas-y, mon poids... Ça... » En plus, j'ai un super CV, je suis hyper souriante et je fais des blagues tout le temps. « Embauchez-moi, les gars !» Et c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que t'aies limite à cracher du feu pour qu'on t'accepte pour un poste de serveuse. Enfin, tu vois, et ce truc-là ressort... Alors, il n'y a pas que le poids... Enfin, il n'y a pas que le poids en discrimination à l'embauche, on va pas s'emballer. Et c'est clairement pas la... Enfin, ça fait partie de discrimination physique et il y en a plein d'autres. Et voilà, enfin, tu vois, penser à nos amis racisés. Alors, si en plus t'es racisé et gros, tu pètes les scores. Mais voilà, enfin, il y a un problème en général sur le physique. Mais oui, le poids, c'est vraiment une barrière à l'embauche, mais c'est une barrière à la rencontre et aux relations amoureuses. LDG, chez LDG, on est intersectionnel, on est queer, etc. Et tu vois, on fait régulièrement des blagues sur « Ah, c'est rigolo d'être LGBT et gros
bah, ». Tu rajoutes, tu veux dire.
Tu rajoutes. Ah bah tu rajoutes.
Tu rajoutes.
Souvent, moi j'ai tendance à dire qu'il y a des choses dans la vie, c'est comme les Pokémon, tu les collectionnes. Donc souvent, les discriminations, elles vont un peu de pair. Les maladies mentales, elles vont un peu de pair. Etc. T'as des joues de cette famille, pas intéressant. Mais non, mais tu vois, mais par exemple, sur les espaces de rencontres LGBT, ben, c'est pas facile quand t'es gros. Parce qu'il y a ce truc de... tu vois, l'image qu'on a, par exemple, des lesbiennes, c'est pas des grosses. Parce que les grosses, elles n'existent pas, de toute façon. Donc, on va pas les représenter, puisqu'elles n'existent pas. Et donc, toi, derrière, va te construire un imaginaire et va te dire que, potentiellement, tu peux rencontrer des gens, plaire et machin et tout... Puisque de toute façon, dans la vie, tu n'existes pas. Alors, la seule image, moi, gros, de personnage gros que j'ai eu enfant, c'était Ugly Betty. Littéralement, son nom, c'est Betty la moche. Enfin, okay. Tu vois.
Alors justement, tu parles d'imaginaire. Alors déjà, juste pour dire, par rapport au fait de rajouter, dans le manifeste de LDG, ben, vous rajoutez, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes antiraciste, anticapitaliste, antipatriarcal. Donc aussi, vous rajoutez.
Nous aussi, on a notre propre jeu de cette famille, tout à fait.
Et par rapport aux imaginaires, ben voilà, on va partir un petit peu avec de l'empouvoirment et l'ISO, qui est aussi une représentation très positive. Tu l'as choisi dans ta playlist.
Je sais pas si tu veux qu'on en parle avant ou après.
Ben écoute, après, et justement, allez. Juste après, j'ai trouvé un petit son de personnes qui parlent de l'ISO aussi indirectement. Ouais. Et déjà, ce que tu as pu aborder sur comment construire son imaginaire ado quand les personnes grosses n'existent pas, en fait, parle beaucoup d'invisibilisation. To somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonnette. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling you want.